Hélène Philippe pour le journal, bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Les négociations jouent les prolongations à gauche et le patron du PS lui-même y participe. Nous serons au siège de la France Insoumise pour une soirée qui s'annonce très longue. Le pompier agressé hier à Paris en marge du cortège du 1er mai dépose plainte. C'est une information France Inter. On en sait plus aussi sur le profil de la manifestante qui l'a frappé. L'actualité, c'est encore la parade à trouver sur le gaz russe. Les ministres européens de l'énergie réunis en ce moment à Bruxelles. Pékin qui resserre la vis face à la flambée des cas de Covid. Et puis les professionnels du bâtiment s'inquiètent de certaines aides à la rénovation énergétique qui baissent. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, ce soir, vous dialoguerez avec le sociologue Michel Viellorca qui interpelle le président de la République dans un petit essai qui s'appelle « Alors, Monsieur Macron, heureux ?» Il s'inquiète de la culture politique qui est la nôtre et surtout il demande au président « Ferez-vous tout ce qui est en votre pouvoir pour renforcer la démocratie ? Serez-vous celui qui résiste aux forces qui la minent ?» C'est notre sujet, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. L'union à gauche va-t-elle s'élargir ? Ça discute dur depuis ce matin au siège de la France Insoumise, après l'accord conclu la nuit dernière avec les écologistes, grande première au niveau national. Ce sont les socialistes désormais qui négocient, et ça dure. Il faut dire que plusieurs figures historiques du PS, de François Hollande à Stéphane Le Foll, doutent de l'opportunité d'un rapprochement. Ils voient une forme de soumission à LFI. Bonsoir Julie Drouin.
Bonsoir.
Vous êtes au siège de la France Insoumise à Paris. Julie est le patron du PS lui-même, Olivier Faure, s'est déplacé pour négocier.
Oui, des négociations, pas si simples, cela prend du temps. La France Insoumise et le PS entretiennent une histoire compliquée. Dans cette nouvelle union populaire, chacun doit trouver son équilibre. Pour les Verts, c'est fait depuis hier. Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, assiste depuis cet après-midi à la réunion à Troyes. Et selon lui, les socialistes semblent d'accord sur le programme commun.
On a bien vu que dans leur réponse au marqueur qu'avait présenté la France Insoumise, le compte y était, qu'il y avait vraiment une volonté commune, il y avait les contours d'un projet commun très ambitieux pour le pays auquel nous souscrivons. La France Insoumise fait un effort conséquent. Moi j'ai bon espoir que ça avance bien et peut-être même ce soir.
Place maintenant donc au partage des circonscriptions. Les Verts en ont obtenu 100. Pour le PS, on était à une cinquantaine. Mais Julien Bayou l'indique, un effort semble avoir été fait du côté insoumis. Ce n'est pas confirmé. Les discussions se poursuivent. Le PS possède un véritable ancrage territorial. Cela joue aussi dans ses négociations, car l'objectif est bien sûr d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, l'accord se dessine doucement mais sûrement. Et c'est une relation historique qui se prépare dans la bataille des législatives.
Julie Drouin avec Sandrine Malon pour ses négociations qui durent. Les communistes qui devaient être reçus en début d'après-midi ne le seront finalement qu'en milieu de soirée. L'objectif, c'est d'aboutir demain, 3 mai, soit la date anniversaire du Front Populaire, date symbolique donc pour les forces de gauche. Hier, les Verts ont obtenu une centaine de circonscriptions, dont une trentaine jugées gagnables, en échange d'un accord sur des points clés du programme insoumis, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 €, et sur l'Europe, non pas une sortie progressive de l'Union européenne en cas de blocage, mais tout de même une désobéissance assumée à certaines règles européennes en matière écologique ou budgétaire. Pour un parti attaché à l'idée européenne, c'est une concession forte et un angle d'attaque tout trouvé pour la majorité qui l'accuse aujourd'hui de renier ses convictions. En tout cas, alors que l'Union tente de se construire à gauche, la coalition des droites rêvée par le camp Zemmour pendant la campagne se heurte, elle, au refus net du Rassemblement national. Et malheur à ceux qui continuent de plaider pour une alliance. Comme Philippe Vardon, une figure du RN pourtant dans le Sud-Est, le Rassemblement National va investir un autre candidat à sa place. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
C'est le début des règlements de compte.
Oui, début des règlements de compte, ou plutôt si l'on se place côté RN, suite logique de la campagne présidentielle. On continue la grande clarification, me dit un membre de l'équipe de Marine Le Pen. Car effectivement, si Philippe Vardon, figure niçoise du parti, directeur de campagne des Européennes en 2019, conseiller régional, n'a pas quitté le navire, il ne s'est jamais investi. Ces derniers mois, on lui reproche aussi d'avoir toujours laissé planer le doute sur sa proximité avec Reconquête. La semaine dernière, l'élu a particulièrement provoqué l'ire de la direction en dénonçant dans une interview au Figaro le refus d'une alliance avec le parti d'Éric Zemmour. Ce matin, rebelote, dans une lettre rendue publique, il demande à Jordan Bardella de laisser le Conseil national trancher. Quelques heures plus tard, selon plusieurs sources, la sanction tombe, pas d'investiture, avec des les conséquences. Un autre élu soupire, ça va être un joli bordel. À la région, le groupe RN va exploser. Conséquence aussi à Nice où Sivardon est exclu. Les autres conseillers municipaux suivront. Un responsable local résume. C'est toujours dommage de se battre entre nous à 6 semaines d'une élection.
Élodie Fora, Éric Zemmour, qui à l'instant sur BFM TV reconnaît sa défaite. C'est évidemment mon échec, dit-il. Et puis les législatives des 12 et 19 juin prochains, ce sera sans lui. Jean Lassalle, député béarnais depuis 20 ans, candidat à la présidentielle et sous le coup par ailleurs d'une enquête pénale à la suite de la mise en scène publique de son abstention au second tour. Il ne rempilera pas et voilà pourquoi.
C'est pas que je n'aime plus la politique, je crois que je l'ai jamais autant aimé. C'est un merci sans limite, avec beaucoup d'émotion que je dis à ceux qui ont voulu que je devienne député et que je le reste si longtemps. Ça ne s'oublie pas. Mais je suis persuadé que ma lutte, je dois la mener maintenant de manière différente. Et je termine en disant que nullement je ne considère ma vie publique terminée. Je ne suis pas sorti de la jungle. Je vais même y rentrer autrement.
Jean Lassalle qui était au micro d'Yannick Damon cet après-midi de France Bleu Béarn.
Le policier agressé hier en marge de la manifestation parisienne du 1er mai va porter plainte.
La femme qui s'en est prise à lui alors qu'il tentait d'éteindre un feu de palette, s'emparant de sa lance, lui donnant des coups, est en garde à vue depuis hier soir. Les pompiers de Paris dénoncent une agression incompréhensible. Bonsoir Victor Vasseur.
Bonsoir.
Et on en sait un peu plus sur le profil de cette manifestante.
Ces publications sur les réseaux sociaux nous éclairent sur ce profil. Une infirmière gilet jaune de 38 ans, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Sur son compte Instagram, le jour du premier tour de l'élection présidentielle, elle publie un selfie dans l'isoloir avec un bulletin du candidat insoumis. Une autre photo publiée montre des membres de sa famille lors d'un meeting parisien de Jean-Luc Mélenchon. Cette mère de famille relaie également des contenus anti-vaccins et proteste contre les restrictions sanitaires. L'été dernier, lors d'une manifestation, elle est même interrogée par l'agence de presse américaine AP. Elle dit avoir démissionné de son poste d'infirmière à cause de l'obligation vaccinale pour les soignants. Sur Instagram encore, elle publie la photo d'un courrier envoyé à l'Élysée destiné à Brigitte Macron pour s'opposer au port du masque pour les enfants. Si cette femme n'a pas d'antécédents judiciaires en lien avec les gilets jaunes, une plainte avait été déposée contre elle pour violence volontaire dans le cadre d'un conflit de voisinage.
Et je vous ai fait dire une bêtise, hein, Fabienne, il s'agit évidemment d'un pompier qui a été agressé hier et non pas un policier, comme je vous l'avais écrit. Une cinquantaine d'autres personnes a été interpellé pour des violences dans le cortège parisien et dans le Gard. Une autre plainte a été déposée après l'agression de deux pompiers en marge, là aussi, de la manifestation du 1er mai. Les policiers manifestaient de leur côté dans plusieurs villes de France aujourd'hui contre la mise en examen pour homicide volontaire d'un de leurs collègues. Il a tué deux des trois occupants d'une voiture qui a tenté de se soustraire à un contrôle près du Pont Neuf à Paris au soir du second tour. Les manifestants dénoncent non pas la mise en examen, mais la qualification et défendent une présomption de légitime défense. Changer de tête pour se relever du scandale et surtout changer ses pratiques. Le directeur général d'Orpea démite ses fonctions après le livre Enquête, dénonçant de graves dysfonctionnements dans la prise en charge des résidents, vient d'être remplacé par Laurent Guyot, un ex du groupe de BTP Saint-Gobain. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
À lui de changer les pratiques du groupe.
Oui, et d'essayer de redorer son image. Laurent Guyot vient d'un univers professionnel totalement différent. Pas grave, estime ceux qui l'ont connu dans l'industrie, il saura s'entourer. Ce qui compte surtout pour Orpea qui le recrute aujourd'hui, c'est son profil d'ingénieur réputé très rigoureux, sa longue expérience de manager à de nombreux postes et la manière dont il a su travailler en France et à l'étranger sur les cultures d'entreprise dans les directions où il est passé. C'est aussi un fin connaisseur des rouages de l'État. Il est passé par Bercy, par le cabinet aussi du ministre communiste des Transports Jean-Claude Guessot à la fin des années 90. Bref, sa feuille de route se lit un peu dans son profil. Il s'agit de restaurer la confiance de l'ensemble des partenaires d'Orpea, de l'État, des actionnaires, des salariés et des clients. Le groupe veut écrire une nouvelle page de son histoire en parallèle de cette nomination. Il annonce d'ailleurs porter plainte contre X pour des pratiques passées, notamment des soupçons d'abus de biens sociaux sur lesquels la justice aura donc à se prononcer.
Fabien Cazot, les témoignages se multiplient depuis une semaine. Harcèlement, agression sexuelle visant le PDG et le directeur de création de l'agence de communication Havas Paris, l'une des trois plus grandes de la capitale, au point que les deux dirigeants se mettent en retrait aujourd'hui. Confirmation du groupe et article à lire sur franceinter.fr.
Et à 19h10, Hélène, 27 ministres de l'énergie à Bruxelles pour chercher l'alternative au gaz russe.
D'autant plus urgent que Gazprom a fermé le robinet à la Pologne et à la Bulgarie qui refusaient de payer en roubles. La France a donc pris l'initiative d'une réunion en urgence des ministres de l'énergie pour trouver une parade rapide et surtout commune. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir.
Vous êtes à Bruxelles et surtout donc l'enjeu pour l'Union européenne, c'est de continuer à parler d'une même voix.
Effectivement, unité, solidarité sans faille, c'est le bilan de la réunion des 27 ministres de l'énergie, tel que le tirait à l'instant Barbara Pompili, qui présidait cette réunion convoquée par la France. Les Européens n'ont aucune intention d'accepter ce paiement en roubles imposé par le Kremlin, un oukase qui ne correspond pas au contrat signé. Et la commissaire à l'énergie, Kadri Simpson, le martèle à l'instant, seuls les paiements prévus par les contrats restent légaux. Un message de fermeté envoyé aux compagnies qui envisagent d'ouvrir ou ont ouvert un deuxième compte auprès de Gazprom Bank pour transformé en rouble par un jeu d'écriture, un paiement qui aurait été effectué en dollars ou en euros. Ce serait une violation des sanctions de l'UE, affirme Kadri Simpson. Remplir les stockages, lancer de nouvelles règles dans l'Union européenne pour pouvoir faire en sorte que ces stockages soient à 100% à l'hiver prochain, c'est l'autre priorité aujourd'hui des ministres de l'énergie. Ils veulent sécuriser l'approvisionnement, trouver des pistes alternatives, trouver plus de fournisseurs, avant de parler demain et après-demain probablement d'un nouvel embargo qui pourrait être dans les sixième train de sanctions que va proposer demain la Commission européenne.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Et en Ukraine, le président ukrainien prévient que le blocus russe imposé au port de la mer Noire pourrait entraîner la perte de dizaines de millions de tonnes de céréales, avec le risque d'une crise alimentaire susceptible d'affecter l'Europe, l'Afrique et l'Asie. On apprend également ce soir que les clubs russes seront exclus de la prochaine Ligue des Champions, décision prise par l'UEFA. L'équipe féminine ne jouera pas non plus le prochain Euro, remplacé par le Portugal. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la Chine face au Covid. Après Shanghai, Pékin redoute maintenant un confinement, même si le nombre de cas reste très faible dans la capitale de 21 millions d'habitants. Les autorités viennent d'annoncer un durcissement des mesures sanitaires qui complique très sérieusement le quotidien de la population, comme a pu le constater notre correspondant à Pékin, Sébastien Berriot.
En quelques heures, l'ambiance a totalement changé ici dans ce quartier branché de Pékin où vendredi soir encore les restaurants accueillaient de nombreux clients. C'est désormais terminé. Tout est maintenant vide et désert. Les restaurants sont uniquement autorisés à recevoir des commandes en ligne. Autre mesure contraignante, les tests Covid devenus obligatoires pour se rendre dans la quasi-totalité des lieux publics, centres commerciaux, métro, bus et même jardins publics. Un test négatif de moins de 48 heures est exigé à l'entrée. Ces mesures sanitaires sont venues gâcher les vacances nationales du 1er mai, période où traditionnellement les habitants sortent pour fêter l'arrivée des beaux jours. Même si Pékin enregistre seulement quelques dizaines de nouveaux cas chaque jour, tout le monde ici redoute un possible confinement. Les autorités semblent s'y préparer. Elles ont déjà confiné une centaine de résidences et classé 10 secteurs de la capitale en zone à haut risque. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Ça va nettement mieux en France. La moyenne du nombre de tests positifs au cours des 7 derniers jours a chuté de près de 30% en seulement une semaine. Le nombre de patients hospitalisés est aussi en baisse.
Au procès des attentats du 13 novembre, avant l'audition très attendue de l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, plusieurs témoins ont été entendus aujourd'hui.
On suit l'audience avec vous, Sophie Parmentier. Bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Et on s'y arrête parce que leur interrogatoire a suscité un certain malaise.
Oui, le premier témoin est un chercheur arabophone, professeur à la Sorbonne, Bernard Rougier, qui déroule à la barre son curriculum vitae, sa thèse au Liban il y a 25 ans, le djihad au quotidien, puis sa connaissance d'Al-Qaïda et de l'État islamique, et il étale sans modestie son savoir théorique qui dérive sur des généralités à charge contre tous les accusés du box. Votre généralisation est préoccupante. Vous ne comprenez rien au système judiciaire français, c'est pathétique, s'énerve Maître Méchain sur les bancs de la défense. Ah, mais je ne veux pas impliquer un tel ou un tel, assure l'université. hier qui, de plus belle, assène que tous les accusés faisaient partie de la cellule terroriste, ce qui est pourtant loin d'être prouvé au bout de 8 mois de procès. Un avocat de Salah Abdeslam se lève et demande au chercheur si péremptoire combien de djihadistes de l'État islamique il a rencontré dans sa vie, et le professeur de bredouiller qu'il n'en a peut-être jamais croisé, tellement c'est difficile. Sidération dans la salle d'audience où un jeune chercheur était humblement venu parler à cette même barre des dizaines de djihadistes avec lesquels lui avait pu s'entretenir en prison. Et depuis maintenant 2 heures, c'est le journaliste Mohamed Sifaoui qui parle, tel un conférencier enchaînant les généralités autour de l'islam radical sans qu'on ne comprenne le choix de ses témoins qui n'ont pas vraiment fait avancer les débats aujourd'hui, surtout à ce stade du procès.
Sophie Parmentier avec Julien Girard en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris et compte rendu d'audience en longueur à lire aussi comme chaque jour depuis le début de ce procès fleuve sur franceinter.fr. Faut-il remettre en cause le permis de conduire à vie? Plus de 130 000 signatures déjà pour cette pétition citoyenne qui réclame un suivi régulier de l'aptitude à la conduite pour les automobilistes, en particulier pour les plus âgés d'entre eux. Une pétition à l'initiative de Pauline Desroulaides, amputée d'une jambe depuis 2018, quand elle a été fauchée par un conducteur de 92 ans, Lucie Rispal.
Il y a 4 ans, dans le 15e arrondissement de Paris, en pleine journée, Pauline Desroulaides est percutée par une voiture. Au volant, un homme de 92 ans qui se trompe de pédale. Alors que la jeune femme traverse la rue, l'automobiliste appuie sur l'accélérateur. Le choc est si violent qu'elle perd l'usage d'une jambe.
La prévention, c'est une chose, mais il faut aussi imposer une visite médicale. Par exemple, lorsqu'on prend des stupéfiants ou de l'alcool au volant, on est en infraction. Alors que si on conduit sans plus rien voir, sans plus pouvoir bouger correctement, on n'est pas en infraction. C'est vraiment toute la différence.
Pourtant, les conducteurs de plus de 65 ans causent moins d'accidents que les 18-24 ans. Anne Laveau, déléguée générale de l'association de prévention routière.
Les seniors prennent leur voiture parce que c'est là qu'ils se sentent le plus en sécurité. Ils ont peur en tant que piétons et ils se disent « dans ma voiture, je vais être protégé ». Il vaut mieux travailler sur les peurs qui sont les peurs des autres modes de déplacement plutôt que de les stigmatiser.
Mais il est parfois difficile de parler à un proche. Ingrid est inquiète lorsque son père de 72 ans prend le volant.
« Medine, arrête !» Enfin, pour l'instant, il réagit un peu comme « attends, c'est bon, c'est moi qui conduis depuis des années. » Il n'y a jamais eu aucun problème, donc c'est bon quoi.
En France, le permis de conduire est délivré à vie. Ce n'est pas le cas au Portugal ou en Italie, où des contrôles sont obligatoires pour les plus de 50 ans.
Lucie Rispal, du jamais vu en France depuis le début de l'épizootie de grippe aviaire. 16 millions de volailles ont été abattues selon le dernier bilan du ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Le pic épidémique est passé, mais toute la filière est fragilisée et les prix risquent de grimper dans quelques mois. Et voici un paradoxe. Alors que la lutte contre le réchauffement climatique est plus que jamais un impératif, que le sujet s'est imposé dans l'entre-deux-tours de la présidentielle et qu'Emmanuel Macron promet même un Premier ministre chargé de mener une planification écologique, le nombre de chantiers d'isolation baisse, divisé par presque 10 en moins d'un an. Et les aides sont elles aussi revues à la baisse. Les primes adossées aux certificats d'économie d'énergie notamment, elles vont chuter de 20 à 30% selon les travaux engagés. Forcément pas une bonne nouvelle pour le président de la CAPEB, Jean-Christophe Repond.
On va revoir à la baisse les gestes qui sont le plus aidés. Et là, on voit bien que cette nouvelle variation va encore contraindre le marché. Ce qui nous pose le plus de soucis, c'est bien sûr la transition énergétique et le réchauffement de la planète, mais également notre activité. Quand on a un marché aidé, il est compliqué d'avoir des stop and go. Si vous additionnez hausse des matériaux, donc hausse de nos devis et factures, plus baisse de l'aide, le reste à charge pour le particulier sera encore plus important. Et j'imagine que le marché va se contracter. Pour les entreprises qui sont spécialisées dans le soufflage des combles et dans l'isolation, c'est une catastrophe pour eux. Pour l'entreprise artisanale que nous prenons plus, nous, ponctuellement, il y a une baisse de carnet de commandes, bien évidemment. Je ne peux pas penser, dans une période aussi difficile, on est à la veille législative, que le gouvernement ait fait ce calcul-là en disant ben, « puisque la facture du particulier sera tellement élevée, il rentrera dans la démarche et on va moins aider ». J'ose espérer que ce n'est pas le cas.
Le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises avec Delphine Simon, rénover et consommer mieux pour préserver l'environnement. Associations et ONG rappellent aussi aujourd'hui que la France ne produit qu'un tiers des poissons qu'elle consomme. Transposé à une année, ça voudrait dire que depuis aujourd'hui 2 mai, on ne mange plus de poissons français, mais que de l'importer. Et ce, même si on possède le 2e domaine maritime mondial. On mange trop de poissons et trop souvent les mêmes. Saumon, thon, cabillaud, alors que le taco, le lieu jaune, le merlu sont tout aussi bons et pêchés en France.
C'est ça la conclusion, pardon. Ben, écoutez, absolument, trop de poissons, tu le poisson. Merci beaucoup, Hélène Filly. On se retrouve.
Marions les poissons.
Demain, mais on va leur demander leur avis quand
absolument.
Même. Avant. Pour nous, ça continue le 18-20 de France Inter. C'est le téléphone sonne. Dialogue ce soir avec vous et le sociologue Michel Wiewiórka qui vient d'arriver et qu'on salue. Un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, matinée calme, ce sera plus instable dans l'après-midi pour demain.
Oui, matinée calme, mais quand même globalement nuageuse entre les côtes aquitaines, les Alpes et les régions méditerranéennes. Le temps sera même gris et humide le long des Pyrénées. En revanche, sur la moitié nord, le soleil sera omniprésent demain matin, même si quelques grisailles pourront le contrarier. L'après-midi, un large quart nord-ouest et les zones côtières de la Méditerranée garderont de belles périodes ensoleillées. Mais sur le reste du pays, les nuages seront plus nombreux. Ils pourront donner des averses. Ces averses se développeront d'abord sur le relief, avec même des orages. Et puis avant la fin de journée, quelques averses isolées pourront aussi glisser jusque dans les zones de plaine.
Et des températures qui restent stationnaires.
Stationnaires et de saison. Les températures minimales seront comprises entre 5 degrés à Caen et 14 degrés à Nice. Les maximales seront plus homogènes. 17 degrés à Tarbes et à Rouen, 19 degrés à Rennes, Nevers et à Metz, 20 degrés pour Paris, Tours, Clermont-Ferrand et Fréjus. On ira jusqu'à 21 degrés à Nantes, Strasbourg, Dijon, Perpignan et Ajaccio, 22 degrés à Lyon et Montpellier, 23 degrés à Agen et 24 degrés à Avignon.
Sébastien Léas de Météo France. Merci beaucoup Sébastien.